France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Surnommée la Bardot du lyrique ou la Callas française, c'est la cantatrice Jeanne Rhode que nous accueillons aujourd'hui dans nos archives. Invitée de France Musique en 1994, Jeanne Rhode confiait à Antoine Liviot ses souvenirs et les grands moments de sa carrière. Une carrière marquée notamment par le rôle de Renata dans L'Ange de Feu de Prokofiev, qu'elle créa en France en 1954, et par celui de Carmen qui lui offrit une popularité internationale. Voici tout de suite le premier volet de cet entretien.
Jeanne Rhode, une personnalité, un personnage. Blonde et insolemment belle, sculpturale, d'un éclat de santé et de sensualité qui s'accorde à sa voix de cuivre et d'ambre. Un feu sombre et ardent qui enfit la Carmen des années 60, une Carmen que le monde entier envia à la France et fit tout pour l'inviter, du maître de New York à Tokyo. Béjart en fera une Marguerite inquiétante pour sa Damnation de Faust, Landowski compose pour elle, mais Jeanne Rhode reste et restera la créatrice en France de L'Ange de Feu de Prokofiev, une Renata couronnée par deux grands prix du disque, une Salomé française et en français, la première, et une incomparable Floria Tosca. On aurait pu dire qu'elle était la Callas française, on a dit qu'elle était la Bardot du lyrique. Elle était mieux. Elle était Jeanne Rhode.
Thank you. rêve. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je ne me prends garde, toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime.
José. Elle l'interpelle, n'obtenant de lui qu'une réponse indifférente, elle arrache de son corsage une fleur de cassis, la lui lance en plein visage, puis se sauve en éclatant de rire.
Qu'est-ce qui vous a décidé un jour, Jeanne Rod, de vous mettre à chanter? Vous avez toujours chanté? Vous aimiez comme ça chanter, petite fille?
Ah oui, oui. Je ne savais pas parler que je chantais. Je crois que j'ai toujours chanté. Je suis née en chantant. Je crois que le premier cri que j'ai fait, c'était une note.
Mais on chantait, on faisait de la musique dans votre famille?
Maman m'a bercée. Il paraît que lorsqu'elle était enceinte de moi, elle me chantait toujours la romance du roi de Tulé. Ce qui est de curieux, alors là, je vois quand même un symbole, c'est que j'ai débuté dans la damnation de Faust. Chez nous, on ne parlait pas, on chantait. C'est-à-dire qu'on se demandait de la nourriture, d'aller au jardin, de prendre le linge, de fêter de voir, en chantant. Nous chantions. Mais sinon, dans ma famille, j'ai eu un oncle que je n'ai pas connu, qui était Léopold Ducourou, je ne sais pas si vous l'avez connu, qui chantait au Met de New York, et qui était ténor, et qui chantait. Sinon, à part maman, on chante tous, mais pas professionnellement.
Alors, vous avez décidé de faire de
j'ai
la musique,
décidé.
Non?
Je savais. Ah. C'est pas pareil. Quand on me disait, qu'est-ce que tu feras? Je disais, je serai artiste. Et comme j'avais 4 ans, peut-être, quand je disais ça, je ne devais pas savoir ce que je disais. Ça, pour moi, ça représentait je ne sais pas quoi. Mais je serai artiste. Et je voyais mes frères, mes sœurs, tout ce monde, mes amis, qui... Plus tard, pas quand j'avais 4 ans, mais plus tard, qui s'interrogeaient tous sur ce qu'ils feraient. Et moi, on se foutait de moi en classe parce que je disais, je serai artiste. Mais j'ai toujours dit, et même à 4 ans, j'ai une photo de moi sur la plage à Deauville, où j'ai un public autour de moi, la choupette, un seau, une pelle, et je chante comme ça, et j'ai un public. Et je dis à maman, un jour en passant devant l'opéra, j'avais un zozotement très prononcé et je lui dis « Maman, un jour, je ferai la marquise de l'opéra. »
C'est magnifique. C'était à Nancy déjà. Vous êtes de Nancy?
Non, je suis de Paris, moi. J'ai débuté à Nancy. Et c'est bon. Drôle que tout le monde a pensé que j'étais de Nancy. Tout est parti de Nancy, si vous voulez.
Donc, c'est le conservatoire à Paris, les classes à Paris?
Non. Professeur privé, Mademoiselle Watteau, qui était le professeur d'Hélène Bouvier. C'est en m'entendant un jour dans un salon où j'étais invitée comme ça et qu'on me demandait de chanter, je devais avoir 14 ans, que j'ai chanté, qu'Hélène Bouvier a dit, mais cette petite fille ne peut pas rester avec une voix comme ça sans la travailler parce qu'elle va s'abîmer. J'avais déjà une voix de... On m'appelait le ténor. J'avais une voix, paraît-il, bon. Elle a appelé Mademoiselle Watteau, qui est arrivée, qui m'a fait ouvrir la bouche, qui m'a regardé le palais, le voile du palais, le ténor, qui a dit, je ne la quitterai jamais.
Ça, c'est merveilleux.
Et j'ai commencé à prendre des cours de chant, j'avais 14 ans et demi.
Ça vous a tout de suite passionné?
Ah, toujours. Mais je n'étais passionnée que par ça, surtout. Toujours.
J'ai fait de la comédie. Vous avez fait du piano, un peu?
Oui, très peu. Je le regrette beaucoup.
Et vous avez fait de la comédie?
J'ai commencé par la comédie. J'ai fait le Centre d'art dramatique de la rue Blanche. J'étais chez Pierre Renoir, Paul-Émile Deber, Jean Meyer. Et ben, je chantais tout le temps. Alors je jouais, bon, j'apprenais les rôles. Et Pierre Aldebert du Palais de Chaillot qui me disait « T'as une belle voix, mais vraiment, tu nous emmerdes, on entend toi. » Alors, évidemment, j'étais môme. Et quand on est gosse, on n'a pas le contrôle de sa voix. Et comme j'avais déjà ce tempérament qui me mangeait, je donnais toujours à fond. Et comme je prenais des cours de chant, j'arrivais chez Mademoiselle Watteau un peu enrouée, un peu la voix voilée. Et elle me dit, Jeanne, il faut que tu choisisses, c'est ou la comédie ou le chant. Et alors là, j'avais un grand problème parce que je disais toujours, je serais artiste. Et pour moi, ça englobait tout. C'est-à-dire, artiste, c'est chanter, c'est danser, c'est jouer, c'est faire de l'escrime. C'est dans toutes les disciplines, quoi. Et je suis allée voir Pierre Renoir et je lui dis, maître, il faut que j'abandonne la comédie parce que il faut que je choisisse. Alors il me dit, je choisis le chant. Il me dit, alors vraiment, je ne sais vraiment pas ce que tu vas faire dans le chant, mais je sais ce que tu aurais fait dans la comédie. Alors je lui dis, oh, c'est très simple, je jouerai dans le chant. C'est ce que j'ai toujours fait, je crois.
Mais quel rôle est-ce que vous avez travaillé quand vous étiez avec Mademoiselle Watteau?
Rigoletto, Traviata,
Manon. Des rôles aussi pointus, aussi aigus?
J'ai chanté devant Max de Rieu et Louis Betz à 15 ans, L'air de la calomnie dans le ton, L'Acmé, Tosca et Carmen. Il y avait Juyol qui était là. Et il me demande mon âge, bien sûr. Je lui dis j'ai 15 ans. Et Juyol lui dit, écoute Max, ne te laisse pas comme ça impressionner, elle a au moins 22 ans. Une voix comme ça, elle a 22 ans. Et je lui réponds, parce que vous trouvez que je suis déjà trop vieille pour me rajeunir. Et il m'a engagée à l'Opéra Comique pour chanter, parce qu'à ce moment-là, on y chantait Traviata et tout ça. Et je suis partie, et dans ma petite tête de 15 ans, pas tout à fait 15 ans, je me suis dit, toi ma fille, si tu fais ça, tu vas te casser la voix. Et j'avais raison, bien sûr. Et j'ai repris chez Mademoiselle Watteau mes cours quotidiens, jusqu'à 21 ans, et j'ai commencé à 21 ans, 22 ans, quoi.
Et qu'est-ce qui a fait que vous ayez commencé avec La Damnation de Faust? Parce que c'était vraiment commencé dans la tessiture qui est maintenant la vôtre, ou voilà, qui a toujours été la vôtre.
Et bien parce que, de soprane lyrique à vocalise, je suis devenue mezzo, puisque j'avais ces voix que je vous explique, qui est vraie. Ouais. Mais Watteau était très impressionnée par ça. Elle disait, il faut absolument que je canalise, quoi. C'est pas vrai, elle peut pas me chanter des contrefa graves et des contre-sols aigus. Mmh. C'est pas possible, faut que je centralise. Donc, comme me dit Roberto, dans le fond, t'as eu un professeur qui t'a limité. Mais c'est pas vrai, il fallait quand même travailler. Alors, j'étais devenue lyrique, de lyrique mezzo, de mezzo soprano dramatique, et j'ai gardé soprano dramatique mezzo. Je suis donc rentrée au Châtelet pour remplacer une élève de Watteau qui était choriste et qui rentrait choriste au Comique, mais qui devait donner une remplaçante ou un dédit. Et comme j'étais là disponible et sans trop d'argent, Watteau me dit « Pourquoi tu ne remplacerais pas mon élève ?» Et j'auditionne au Châtelet, c'était Nuvelon, Félix Nuvelon, je me souviens comme chef d'orchestre, et je lui auditionne Carmen, c'est drôle. Et il me dit « Bon, bah, écoutez, mademoiselle, c'est très, très bien. Seulement, pour le chanteur de Mexico, c'est trop tôt. » Mais je dis, mais non, non, monsieur, je viens pour être choriste. Et là, elle est folle. Elle est folle. Je ne sais pas, monsieur, moi, je viens remplacer Nadine Rutenbourg. Je ne sais pas. Bon, j'ai tout de suite été engagée. Bien sûr. Manque d'ambition, hein, vraiment. Et un jour... je ne me pliais pas du tout aux disciplines des choristes, quoi. C'est-à-dire, comme je vous dis, je chantais, je dansais, je jouais, on m'avait donné des petits rôles à parler, j'y allais à fond. Et un jour, Marcel Lamy, directeur du Théâtre de Nancy, est venu voir son grand ami, le régisseur du Châtelet, qui s'appelait Lissac. Et moi, pendant les entractes ou les tableaux, je descendais à ce qu'on appelle un manège. Vous savez, le manège, c'est un endroit, me dit Roberto, où le concert Connell ne répétait. Et dès que je n'étais plus en scène, je descendais au manège avec un choriste et je chantais. Werther, Tosca, Danation, bon. Et il dit à Lissac, mais qu'est-ce qu'il chante? Ah oui, tu sais, elle est complètement folle. C'est Rod, elle est folle, elle fait philo, elle est folle et elle est dans les chœurs. Ah oui, dit-il, elle est complètement folle. Et il vient et me voit et me dit, mademoiselle, voulez-vous débuter pour moi au gala des artistes de Nancy, dans le premier acte de la Tosca? Et je lui réponds, vous savez, monsieur, ce n'est pas gentil de se moquer d'une jeune fille. Et c'est comme ça que j'ai débuté dans le premier acte de la Tosca. Ça a marché comme ça.
Ooh. Ha ha ha!
fidèle jusqu'à cette veillée. J'ai ta promesse sous aucun prétexte. Aucune blonde brune ne viendra prier là, jamais aucune.
J'en fais serment. Oh.
Que tu me presses
encore.
Oh, pardonne.
Et devant la madame.
Ce qui me paraît important quand même, c'est de vous voir en scène pour la première fois, d'abord dans le premier acte de Tosca. C'est peut-être la seule fois où il y a eu sur scène une interprète de Tosca qui avait l'âge du rôle.
Ah, parce que dans la pièce de, ans, oui.
Mais dans la pièce de Sardou, elle a 18 ans. Alors,
donc
vous
j'étais
voyez,
déjà vieille.
Oui,
j'étais
un
déjà
petit peu marquée.
Oui, déjà marquée.
Mais la réaction du public et vos réactions face au public, ça vous a tout de suite plu, cette espèce de corps à corps?
Eh bien, écoutez, je n'avais pas de sous, comme je vous le dis, et je suis allée chez Mathieu louer une robe de la Tosca, du premier acte de la Tosca. Malheureusement, il y avait des trous dans l'ourlet de devant. Et Mario, voilà, il m'ouvre la porte, j'entre, je me prends la pointe du pied dans le trou de la robe et je tombe. Ma réaction, c'est de sortir. Et heureusement, le ténor me retient. Et j'ai chanté tout le premier acte en pleurant.
Et vous êtes entrée à l'Opéra Comique comment?
Alors ça, c'est assez compliqué parce que j'ai fait Le Fou de Marcel Landowski, toujours sous la direction de Marcel Lamy, qui m'aimait beaucoup.
Et ah ben, Lamy était venu à l'Opéra Comique, alors?
Non, il était toujours à Nancy. Et c'est là que la presse s'est dérangée, la presse parisienne. Et si je puis dire, ma découverte, voilà. Et ils m'ont dit, ce n'est pas Le Fou, mais c'est la femme du fou. Et là, vraiment, ça a fait un remue-ménage terrible. Et j'ai enregistré L'Ange de Feu. Et c'est là qu'ils m'ont demandé à l'Opéra de rentrer. Parce qu'on avait fait en présentation de lecture le Fou, pour le donner en décentralisation, mais c'était une audition pour l'ouvrage. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à chanter, Georges Hirsch père s'est retourné pour voir comment j'étais. À la fin, il me dit, mais il faut rentrer à l'opéra. Et je lui ai dit, écoutez, engagez-moi. Alors il me dit, mais il faut auditionner. Je lui ai dit, qu'est-ce que je viens de faire? Il me dit, mais vous avez auditionné pour l'ouvrage. Ah, j'ai mal à auditionner, je ne le ferai pas, parce que je serai très mauvaise. Je ne le ferai pas. Et j'ai continué de tourner, jusqu'à ce que l'on m'engage pour L'Ange de Feu qu'on n'avait jamais fait. J'ai raflé les deux prix du disque. Et là, Hirsch m'a dit, je ne peux pas faire autrement que... Oui. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Et je lui dis, Salomé. Il dit, on ne chante pas Salomé à 25 ans, c'est pas possible. Je dis, oui, mais moi, c'est ce que je vais faire.
Alors, si vous êtes d'accord, avant quand même, vous avez commencé avec deux ouvrages horriblement difficiles. D'abord, un Landowski, c'était une création, Le Fou.
C'était une création, L'Ange de Feu.
L'Ange
de
Feu.
Première mondiale, voilà. Ça, c'est dingue.
Alors, est-ce que vous avez sauté à pieds joints dans la littérature contemporaine? Parce que quand on se prépare, même avec un professeur aussi excellent, Mademoiselle Watteau, eh bien, on n'est pas apte à...
Plus c'est difficile, mieux j'apprends. Voilà.
Ah bon?
J'adore ça. Je me souviens de L'Ange de Feu, tout de même. J'ai dû mettre 2 mois et demi pour l'apprendre. Et nous n'avons eu, parce qu'il n'y avait pas les moyens qu'il y a aujourd'hui, on n'a eu que 13 séances d'enregistrement pour cet ouvrage fou, vraiment fou. Mais c'était à faire une dépression nerveuse, hein, tellement c'était tendu au point de vue dramatique. Bien. Après, il y a eu tous les contemporains qui m'ont demandé, que ce soit Jolivet, que ce soit Tansman, que ce soit... J'en ai tellement chanté 19 en un an, c'était fou.
19
ouvrages modernes en un an. C'est quand même fou. Mais ça ne m'a pas esquinté la voix, puisque...
Ça a duré longtemps.
Oh, oui.
Oui, et ça dure toujours.
Au contraire. Non, je crois que j'ai très bien travaillé ma voix, Dieu merci.
Alors, par exemple, avec Landowski, est-ce qu'il adaptait des choses pour vous? Est-ce que vous discutiez avec lui? Ou est-ce que vous receviez une partition et vous étiez obligé de suivre?
Non. On était très complices, on a été très, très amis. Et il m'a fait un super compliment quand j'ai chanté Isadora du Fou, la femme de l'inventeur de la bombe atomique qui ne veut pas livrer à son pays pour ne pas détruire les autres. C'était un opéra factuel. Hein. Et non, il m'a dit, je ne savais pas que j'avais écrit ça. Mais quand on le travaillait, il me disait, si quelque chose te gêne, tu fais ce que tu veux. On pointe, on fait ça, on fait autre chose. Mais ça allait parce que le dramatique l'emportait toujours. Et les adieux, après que Marcel m'a fait dédicataire des adieux, c'était Louis de Froment.
Mais il l'a composé pour vous, les adieux?
Oui, pour moi.
Alors, les adieux, c'était très curieux. Ben, ça, c'est un souvenir, je ne veux pas dire ancien, mais enfin, c'est un souvenir qui remonte à...
C'est de 61, juste après Carmen.
Alors, les adieux, c'était une cantatrice et une comédienne.
C'est ça.
Et ça, alors, le travail avec Claude Nonnier, ça a dû à la fois être très agréable pour vous parce que vous retrouviez le théâtre,
oui.
Mais la voix n'est quand même pas placée de la même façon.
Oh, si, elle est très musicale, Claude. Hein, Puis sa voix est très, très belle, très chantante. Non, c'était, il n'y avait pas rien de surprenant parce qu'il y avait aussi des choses parlées pour moi. Donc, nos dialogues, par contre, c'était parler avec elle, si vous vous souvenez.
Mais c'est pour ça que je vous dis, vous, dans votre voix, je me suis toujours posé la question, comment vous faisiez pour passer de la voix parlée à la voix chantée avec autant d'aisance?
Ben, je pense que j'ai la même. Mm-hmm. Voilà, je pense que je chante comme je parle, je crois. Et les mannes dans la péricole me disaient, surtout ne monte pas ta voix, parce que toutes font ça comme ça pour, soi-disant, ne pas se fatiguer le larynx, et je trouve ça complètement ridicule. Je disais, surtout... Tu gardes ta voix. Et je crois qu'on retrouve... D'ailleurs, si les gens me parlent, parfois dans la rue, c'est parce qu'ils m'ont entendu parler. « Oh, vous êtes Jeanne Rode. » C'est drôle, c'est par la voix parlée.
Non, il est vrai que vous avez une voix très timbrée, relativement grave.
Ah oui, grave, oui.
Et qui correspond tout à fait au personnage de Carmen, par exemple. Donc il y avait pour moi, que ce soit dans Les Adieux ou que ce soit dans Carmen, mais tout le monde a Carmen dans l'oreille, il n'y avait pas de différence.
Non, c'est-à-dire que j'ai le même timbre, je crois. Parce que j'ai la voix plus haute quand même, chantée. Mais c'est le même timbre. Je crois que c'est ça, il n'y a pas de différence de timbre.
Dans le travail à l'opéra comique, j'aimerais là que l'on parle un tout petit peu de ce théâtre, parce que, bon, vous chantiez à l'opéra, c'était Carmen, vous aviez là ce dispositif fastueux, on en parlera après, du travail avec Rouleau. Vous vous trouvez soudain à l'opéra comique où tout est rétréci et petit, enfin, vous me sembliez tellement à l'aise dans cette bonbonnière, on avait l'impression qu'on entrait chez vous.
Comment expliquer ça? C'est parce que j'habite la scène, je l'habite. Je ne suis pas sur une scène, c'est chez moi. Je suis chez moi, je suis mieux sur une scène que chez moi. C'est comme ça. Et quand on me disait, où habitez-vous? C'est à l'opéra. C'est là ma maison, c'est ma maison. Donc l'opéra comique, j'étais plus à l'aise à l'opéra, hein. Bien. Mais l'opéra comique, je n'avais pas de difficulté d'action. Mais je n'ai pas chanté que Tosca et Les Adieux, j'ai chanté Werther, l'heure espagnole et la voix humaine en double. Ça, c'était une sacrée performance, quand même.
Alors, l'opéra comique, vous montez Les Adieux, c'est un travail très grand, parce que la partition n'est pas facile. Non. On ne la donne que 7 fois. Et ça, oui, doit être très triste.
C'est très triste. Moi, je trouve que c'est très triste que même le fou n'ait pas eu plus de retentissement dans la durée, si je puis dire. Ça reviendra probablement. Et que Les Adieux aient été stoppés. Parce que c'était quand même un superbe opéra comique. C'était pas un opéra comique, c'était une... C'était un état d'âme, quoi. Et Marcel l'avait merveilleusement mis en musique. Pinoli était formidable, puis je crois que j'y étais pas trop mal. C'était un... Ben, vous en avez dû un souvenir, donc c'est que tout de même ça vous a marqué. Moi, ça m'a beaucoup marqué aussi. J'ai beaucoup aimé interpréter Les Adieux. Et c'est vrai que c'était difficile à faire parce qu'il y avait des effets scéniques. Vous vous souvenez, les mains, tout ça. Quand je l'attends, je veux faire une fête et tout, mais je recule parce que la déception pour moi, l'intuition de la déception est plus grande que l'envie de le vivre. Et il me disait, c'est tout toi ça. Alors oui, c'est pour ça qu'il m'a dit, c'est pour ça que je l'écris. Mais c'était très difficile, mais j'étais parfaitement à l'aise, toujours. parce que j'ai toujours joué. J'ai toujours joué. La voix, elle m'a été donnée. Ça, il n'y a pas de problème. Elle m'a été donnée. Merci mon Dieu, merci maman. Mais, et j'ai eu un merveilleux professeur de chant. Ça, il n'y a pas de doute. Et je n'ai pas eu de problème vocalement. Donc, il me restait à être ce que je suis, une comédienne.
Alors, vous avez créé les ouvrages de Marcel Landowski, mais vous avez écrit, vous avez créé aussi beaucoup, beaucoup d'autres opéras, et vous avez, donné en première mondiale beaucoup d'autres ouvrages. Est-ce que c'était pour la radio ou est-ce que c'était aussi sur scène?
C'était pour les deux. C'était aux Champs-Élysées, c'était radiodiffusé. Quand je serai morte, ça sortira. C'est sûr.
J'espère seulement que ça va ressortir avant.
Oui, là, je pense qu'il va y avoir une très belle surprise qui va sortir de la radio qu'on a fait avec le National, qui était superbe. Et ça, je suis très, très heureuse de ça.
Alors, parmi tous les compositeurs, quel est celui, mettons peut-être Marcel Landowski à part, quel est celui avec lequel vous avez le plus travaillé, vous avez le plus œuvré pour une création? Ou qui vous a donné le plus de travail?
Ce n'est pas un compositeur vivant. Non, c'est pas forcément un compositeur. Quoique la cantate pour une démente de Maurice Jarre, c'était assez dingue. Il fallait vraiment une dingue comme moi pour le faire. Non, c'est des rôles comme Salomé, quand même, de Richard Strauss, de L'Ange de Feu, de Prokofiev.
Je me lacerai la poitrine avec des pointes.
parlant de Salomé, mais...
Je suis rentrée à l'opéra et j'ai chanté Salomé.
Mais c'est quand même assez curieux, parce que vous aviez l'âge du rôle, presque.
Non, elle a 15 ans, j'étais encore trop vieille. C'est parce que je me dis, on ne chante pas Salomé à 25 ans. Je dis, je suis désolée, mais elle en a 15. Alors, je suis déjà trop vieille. Et il me dit, mais c'est un casse-gueule. Et c'est comme ça qu'ils ont titré dans les journaux, Jeanne Rode rentre à l'opéra pour chanter les casse-gueules. Mais je ne me la suis pas cassée, parce que je le sentais très vivement en moi. Et ce que je sens, ça, je crois qu'avec une technique comme j'avais, on ne se casse pas la gueule, puis on sent ce qu'on peut faire. On le sent, enfin, je sais, il y en a qui ne le sentent peut-être pas, mais moi je le sens jusqu'où je peux aller. C'était dur, très dur, mais le personnage était tellement important et tellement complexe que ça m'aidait à donner toute cette force vocale et cette intensité. Je l'ai fait en français et en allemand. Au Metropolitan, je l'ai fait de New York, je l'ai fait en allemand. Et à Paris, je l'ai fait en français.
Lorsque vous êtes entrée dans le rôle, bon, c'est pas vous qui dansiez.
Si.
Si.
Bien sûr. C'était Harold Lander qui m'a réglé le ballet. Il dure quand même 12 minutes. Et je m'étais fait faire une grande coupe de thé en carton bouilli, dans lequel on m'avait versé à peu près 1,5 litre de thé, le temps que Hérode dise Ah, elle a dansé pour moi. Et que je dis, je veux la tête de Yohanan. J'étais tellement essoufflée par la danse, parce que vraiment, il faut la faire, et je l'ai fait. C'était pas ta-ta-ta-ta-ta-ta, c'était vraiment une danse. D'ailleurs, le corps de ballet était en coulisses. Et vraiment, c'est pour ça que je suis très amie avec les ballets. Ils venaient toujours me voir dans la danse de Salomé. Et puis, au Metropolitan, c'est Robin qui me l'a réglé. Bon, enfin, je savais danser, quoi. Et, alors, donc, je buvais pour calmer mon cœur. Parce que je ne pouvais presque pas articuler tellement j'étais essoufflée.
Ça, c'est une des questions que je me suis souvent posée, parce que normalement, une variation dure 1 minute 30, 2 minutes au maximum.
Ah non,
c'est 12 minutes.
12 ou 13 même. Ouais. Et après, on chante 15 minutes à genoux avec la tête de Yohanan, que vous savez, entre les mains.
Qu'est-ce qui avait fait la mise en scène de Salomé?
C'était Beckmans qui avait refait, ça ne s'était pas chanté depuis 1929 à l'opéra, et je l'ai repris donc en 57. Et ça ne s'est pas rechanté, si, avec Agnassilia dans la mise en scène de Wagner. Mais sinon, ça ne s'est pas rechanté.
Et pourtant, ça, c'est un rôle qui ne vous a jamais déçu.
Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire à faire. Cette musique qui est... Oh, comment dirais-je, qui frôle presque parfois le mauvais goût, mais qui est dans tout l'horreur de la cour d'Hérode. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est extraordinaire à vivre. Et puis ces envolées lyriques, quand même, ces difficultés vocales, c'est extraordinaire à faire.
Quand vous aviez un rôle pareil, est-ce que vous retourniez chez Mademoiselle Watteau?
Ah oui, absolument, on mettait tout à plat. Ah oui, ça, on a toujours fait ça, on s'est toujours remis en question et on a toujours remis à plat. Et elle me disait toujours, fais le mieux que tu peux et ce ne sera toujours pas très bien.
C'est très encourageant.
Non, avec ça, on reste humble, c'est vrai.
Oui, mais est-ce qu'on peut rester humble quand on chante Salomé et quand on se rend compte que ça marche? Parce qu'il faut bien dire que ça a très bien marché.
Bah, bien sûr que ça a marché. Mais on est humble parce qu'on se rend compte du potentiel qu'on a et de ce qu'il vous reste à faire et qu'on ne peut pas en rester là. Puisqu'on a fait ça, c'est qu'on a autre chose et qu'il faut le trouver. Donc être humble, c'est le contraire d'être modeste, à mon avis. Modeste, c'est être « Oh, je vous remercie, c'est très gentil » et en rester là. Ne pas faire de progrès, ne pas savoir ce que l'on vaut et ne pas savoir ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire tout. Il vous reste toujours tout à faire, même maintenant. Il reste encore tout à faire. Mais il n'y aura pas les années pour ça, mais sinon, il reste encore tout à faire.
Thank you.
Jeanne Rhode était Salomé dans un extrait de la scène finale de l'opéra de Richard Strauss avec l'Orchestre National de la Radio que dirigeait Marcel Carivène en 1959. Ainsi se conclut la première partie de La mémoire retrouvée de Jeanne Rhode, une émission d'Antoine Livio diffusée sur France Musique en 1994. Cette archive est dès à présent disponible à la réécoute et au podcast sur le site francemusique.fr ou sur l'application Radio France. Je vous donne rendez-vous demain pour écouter le deuxième volet de cet entretien avec Jeanne Rhode. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration. À réécouter sur francemusique.fr.